Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Seule de tous les arts, la littérature souffre de la malédiction de Babel. C'est par cette sentence introductive que Roger Caillois résume l'enjeu du problème de la traduction dans la conférence que vous allez entendre dans un instant. Une conférence prononcée quelques mois seulement après son élection à l'Académie française. En cette année 1971, Caillois est un intellectuel reconnu depuis déjà de nombreuses années. Ses essais, ses critiques littéraires, son travail poétique lui valent une reconnaissance, sinon du grand public, du moins des cercles intellectuels. Il est aussi un traducteur lui-même, et non des moindres, puisqu'il a traduit en français une partie de l'œuvre du maître argentin Jorge Luis Borges. Caillois s'exprime donc en connaissance de cause lorsqu'il évoque, dans cette intervention, la difficulté de transposer d'une langue à l'autre, ce qui est parfois au-delà des mots. La tâche n'est pas pour autant impossible pour le traducteur, mais cette tâche est colossale. Il lui faut, selon les mots de Caillois, inventer le texte qu'aurait écrit l'auteur si sa langue maternelle avait été celle du traducteur et non la sienne. Voici donc Roger Caillois dans Les Grandes Conférences, première diffusion de cette archive le 30 juillet 1971.
Roger Caillois vient d'être élu membre de l'Académie française. Il n'a pas encore prononcé son discours de réception. C'est donc une avant-première du nouvel académicien que propose France Culture. Déjà en mars-avril 70, les auditeurs de cette chaîne avaient pu écouter 12 entretiens de Roger Caillois avec Jeanine Worms. Au cours du dernier trimestre, dans la série « Écrivains du XXe siècle », un certain nombre de textes significatifs de cette œuvre seront interprétés par des comédiens. Aujourd'hui, Roger Caillois lui-même va parler de la difficulté de la traduction. C'est un texte qui aurait plu à Paul Valéry et plus encore à Léonard de Vinci, parce qu'il part d'une foule d'observations prises sur le vif, et il aboutit à des idées générales qui font réfléchir. Cette conférence a été prononcée devant les étudiants de l'université de Kaboul, capitale de l'Afghanistan, le 20 mai dernier. Le vice-ministre des Affaires étrangères traduisait phrase par phrase en langue dari. Sans nul doute, aux yeux de Roger Caillois, ses considérations sur la difficulté de la traduction, confrontées avec une traduction immédiate, et pour ainsi dire sans filet, ne devaient pas manquer de piquant. De quoi est-il question ? Comment traduire par exemple le mot « printemps » en Côte d'Ivoire où cette saison n'existe pas ? Ou bien le mot « neige » ? Bien traduire, c'est donc, tout d'abord, déterminer avec exactitude l'intention prioritaire, ensuite inventer le texte, comme si la langue maternelle était celle du traducteur. Roger Caillois arrivait d'un voyage officiel au Japon et se joignit à notre délégation qui, sous la conduite de M. Louis Jox, ambassadeur de France, venait inaugurer une nouvelle ligne d'aviation Paris-Kaboul. Sa seule présence fit basculer l'ensemble, opéra une sorte d'attraction centrifuge. C'est ce qui arrive avec cette conférence. Plus l'on approche de la fin, plus l'attention se change en passion. Elle transforme la politesse intellectuelle en ferveur.
Seule de tous les arts, la littérature souffre de la malédiction de Babel lorsque fut décidée la confusion des langues. La danse, c'est-à-dire l'art du mouvement, la musique, c'est-à-dire l'art des sons, l'architecture, celui des formes habitables ou somptueuses, la sculpture, celui des formes harmonieuses ou expressives, La peinture, enfin, c'est-à-dire les compositions plaisantes de lignes et de couleurs, tout ceci est transmissible d'une culture à une autre. Je ne dis pas sans préparation, mais en tout cas sans intermédiaire. Ces arts parlent un langage universel. Les œuvres qu'ils produisent, il suffit de les enregistrer et de les reproduire. Il n'est pas nécessaire de les traduire. Un disque, une reproduction en couleur, le facsimilé d'une statue communique partout un message dont l'essentiel demeure sensible. Musée, album, discothèque donnent une image immédiate des apports des beaux-arts du monde entier, des diverses civilisations. La littérature, au contraire, ne bénéficie nullement de cette facilité migratoire. C'est que cet art a pour véhicule un système de signes toujours différents, souvent pas même apparentés. Il ne faut qu'un apprentissage pour apprécier une sculpture qui répond à un canon étranger, ou bien un tableau ou une fresque qui sont peints d'après une autre perspective, ou encore une musique composée sur des cadences ou à partir d'une gamme d'abord surprenante. Il ne sert de rien de lire ou d'entendre une page de Keats, de Cervantes, de Litaipo ou de Kalidasa. Il faut d'abord la comprendre, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait été traduite. L'apprentissage ne vient qu'après. La substance de l'œuvre est cachée. Elle n'est pas à elle-même son propre message. Elle véhicule un sens inaccessible à celui qui n'en connaît pas la clé, c'est-à-dire qui ignore la langue dans laquelle elle fut composée. De cette constatation élémentaire, il découle une conséquence fondamentale, la nécessité de la traduction, opération ingrate, complexe, traîtresse, qui entraîne des difficultés parfois insurmontables. La traduction apparaît comme une activité de décodage. En fait, elle en est une. Chaque fois que le langage à traduire n'est plus utilisé par des vivants et qu'il se présente comme un ensemble de signes énigmatiques, comme ce fut le cas, par exemple, pour les hiéroglyphes égyptiens ou pour les caractères cunéiformes, comme ce l'est encore pour l'écriture maya. Le déchiffrement de l'alphabet n'est d'ailleurs qu'une première étape. Chacun, par exemple, peut lire l'étrusque. Mais l'étrusque demeure impénétrable. C'est qu'on ignore à quelles autres langues le rattacher et qu'il n'en existe pas assez d'inscriptions étendues pour qu'on puisse l'interpréter, si j'ose dire, de l'intérieur, comme Chadwick et Ventris ont pu le faire pour le minoen A et B. Ce problème, qui est propre aux langues mortes, connu seulement par l'écriture, n'existe pas pour les langues vivantes. Les interlocuteurs s'expliquent, ils se font comprendre, ils utilisent un langage intermédiaire, établissant ainsi le répertoire des termes équivalents ou proches, constituant peu à peu le dictionnaire bilingue qui est l'instrument indispensable de la traduction. La démarche, il est vrai, ne vaut qu'au niveau de l'information. Elle n'est pas suffisante pour l'œuvre littéraire, qui est un ensemble d'intentions, une mise en œuvre naïve ou savante de moyens expressifs appropriés, dont certains, surtout pour les langues sans écriture, tiennent au son, au ton, au geste, à la mimique, de sorte qu'une conscription ne rendrait que le squelette de l'œuvre déclamée, modulée, dansée, jouée, mimée. Or, il est bien connu que la littérature, partout, a précédé l'écriture. Il faudrait, ce qu'on fait d'ailleurs pour la collecte des épopées, des incantations ou des berceuses africaines, joindre à la transcription, puis à la traduction, un enregistrement audiovisuel. Je laisse maintenant de côté ces cas extrêmes, c'est-à-dire celui des langues sans écriture, ou des écritures sans langue encore en usage, pour m'en tenir au cas le plus simple, qui est heureusement aussi le plus commun. La confrontation de langues à la fois écrites et parlées, que beaucoup ont en fait parlé et écrivent simultanément, comme le français, l'anglais, l'espagnol, le russe, l'arabe, le chinois, etc. Pour la communication quotidienne, et encore moins pour les ouvrages scientifiques ou techniques, qui expriment une réalité valable universellement, les difficultés ne sont pas décourageantes. Il n'en va pas de même en littérature, où chaque ligne suppose une intention et entraîne une évocation qui ne s'identifie pas avec la simple désignation. Le lexique de la mémoire et de l'émotion n'est pas une pure nomenclature, ni un catalogue d'équivalents mécaniques, comme celui d'un dictionnaire bilingue. De part et d'autre, des mots demeurent sans correspondant, et même parmi les plus simples. On peut exporter le mot neige au Congo, ou le mot printemps au Brésil, mais ils demeureront lettres mortes dans des contrées qui sont sans hiver et sans été, même si on prend soin d'expliquer ce que printemps veut dire. Il y a une dizaine d'années, j'ai accueilli chez moi à déjeuner la fille du poète brésilien Aníbal Machado, que celui-ci m'avait envoyée. C'était au mois d'avril. Elle était émerveillée d'avoir vu au Luxembourg les arbres qu'elle croyait morts se couvrir de bourgeons. Elle me raconta qu'elle en avait recueilli quelques-uns et qu'elle les avait envoyés à son père par avion dans une petite boîte pour lui montrer comment en Europe les arbres ressuscitaient. Naturellement, elle connaissait le mot printemps qui existe en portugais, cela va de soi. Mais elle ne connaissait pas la chose et la voyant pour la première fois, elle avait été tellement émue qu'elle n'avait même pas eu l'idée de lui appliquer un mot pourtant familier et qu'elle connaissait depuis l'enfance. De même, les écoliers qui apprennent encore actuellement le français au Sénégal ou en Côte d'Ivoire sont immanquablement surpris dans les poèmes qu'on leur fait apprendre par cœur de la place tenue par le mois d'avril et par le mois de mai. Ils se demandent ce que ces mois peuvent avoir de particulier pour susciter une telle émotion chez les poètes français. C'est parce qu'ils ne correspondent à rien de saisissant dans le cycle de la végétation tropicale. Les différences de climat entraînent des différences de faune et de flore. Ce ne sont pas les mêmes herbes, les mêmes plantes, les mêmes animaux. D'où par exemple la difficulté éprouvée par les missionnaires pour traduire dans les langues des contrées polaires le premier chapitre de la Genèse, la ruse du tentateur dans le jardin d'Éden. Jardin déjà n'est pas très commode à exprimer dans des climats qui n'en permettent pas. Mais surtout, il n'existe pas de serpent dans la terre gelée du cercle polaire. Certes, on peut expliquer ce qu'est un reptile, un animal sans pattes, sans ailes, sans nageoires. Mais cela paraît bien fantastique. Une autre solution consiste à remplacer le serpent par un animal local, le phoque par exemple. Mais outre que c'est là attenté à la vérité révélée, à la parole de Dieu, le nouvel avatar du tentateur le dépouille de tout ce que le serpent évoquait de souplesse, de fourberie, de trahison, et aussi lui enlève sa malfaisance spécifique, le venin. En général, d'ailleurs, les différentes traductions de la Bible fournissent une inépuisable réserve de difficultés de ce genre. Ces difficultés ne tiennent pas seulement au climat, à la flore, à la faune, à l'hydrographie. Elles tiennent aussi aux règles de la courtoisie et de l'honneur, aux métaphores usuelles, aux proverbes, qui accréditent une certaine sagesse, aux traditions, à la morale, aux techniques, à l'économie, aux institutions. Ainsi, quand l'Empire Inca fut conquis par les Espagnols de Pizarre, il fallut l'évangéliser. Communautaire, cet empire ne connaissait ni la propriété privée, ni la monnaie, et encore moins le prêt à intérêt. D'où la difficulté de faire comprendre la parabole du mauvais intendant qui enterre l'argent de son maître et du bon intendant qui fait fructifier les dix talents. Il fallut d'abord importer la monnaie, les comptes en banque et le commerce de l'argent. Sans quoi, comment faire entendre qu'un serviteur est coupable de n'avoir pas porté l'argent à la banque? De même, en Amérique du Nord, aux Indiens des déserts de l'Arizona, où la moindre plante est sacrée, arrosée tous les jours, protégée des vents, entretenue avec les plus grands soins, la parabole du bon grain et de l'ivraie parut scandaleuse. Elle fut mal reçue. Les Indiens étaient indignés par une religion dont le Dieu ordonnait d'arracher des herbes. Ce ne pouvait pas être un Dieu estimable. Il fallut inventer une parabole équivalente. Pareilles impasses se trouvent dans tous les domaines. Le blanc est couleur de deuil dans plusieurs pays asiatiques. Il est symbole de pureté en Occident. Dans un roman asiatique, il peut très bien arriver à un traducteur méditerranéen d'avoir à traduire la phrase suivante. Une jeune femme entra, tout de blanc vêtue. S'il traduit littéralement, il ne transmettra nullement l'impression funèbre que l'auteur a voulu provoquer. Mieux vaudrait qu'il transposât tout de noir vêtu. Inversement, traduit dans ces langues, littéralement, le vers de Victor Hugo, vêtu de probité candide et de lin blanc, ferait croire que le personnage vient de perdre un être cher. Certes, il reste le subterfuge de la note en bas de page. Mais elle brise le récit, et l'on ne saurait répéter trop souvent pareil artifice. Plus le texte est littéraire, et plus les ambiguïtés de ce genre se multiplient. Dans le Cantique des Cantiques, l'épouse est louée d'être belle comme la lune, ce qui est un grand compliment en Orient, mais aucune occidentale ne goûterait la comparaison si on la lui appliquait. Le sonnet de Quevedo à la mémoire du duc d'Osuna se termine par le vers et sous épitaphio la Sangrienta Luna, allusion à une bataille où les Turcs battus connurent de nombreuses pertes. La traduction immédiate, la lune on sent, rendrait le vers vainement obscur. Il faudrait traduire par croissant, mot peu usité en ce sens dans la langue espagnole, mais qui renvoie explicitement aux armes du sultan. Que dire enfin de la poésie chinoise, où chaque vers rappelle subtilement une image supposée connue d'un poète célèbre. Ainsi, dans chaque ensemble de signes, dans chaque langue, aucun mot, même le plus ordinaire, ne constitue l'équivalent exact du mot étranger correspondant. Il possède inévitablement des connotations sémantiques différentes. Le Rhin n'est pas le même fleuve pour un poète allemand et pour un militaire français. Mais ce sont peut-être les noms de rue qui montrent le mieux l'ampleur du phénomène. Rien ne serait plus facile à traduire en anglais que rue de la paix ou place de l'étoile, en français que Scotland Yard. Pourtant, nul ne s'avise, en traduisant un roman, d'écrire Peace Street, Star Place ou Cour d'Écosse. C'est que les trois endroits précités ont une histoire, une réalité originale, une célébrité telle qu'elles existent indépendamment des noms qui les désignent, de sorte que la traduction de celui-ci leur enlèverait leur personnalité même. En revanche, je ne suis pas sûr qu'à Buenos Aires, Paseo de Julio, ou avenue où se succèdent les cabarets de matelots, ou Calle 33, ainsi nommé en mémoire d'une expédition héroïque d'un petit nombre de patriotes, ne doivent pas être traduits tout simplement par promenade de juillet ou par rue des 33, car ces artères n'existent pas assez dans leur individualité urbaine ou littéraire dans la conscience de la majorité des lecteurs européens. De toute façon, ils ne savent pas à quel juillet historique ni à quel 33 il est fait allusion. Un cas particulièrement significatif est fourni par la traduction française traditionnelle de l'avenue de l'ancienne Pétersbourg, Nevski Prospect. On traduit habituellement par perspective Nevski. Cette traduction est dangereuse si elle ne fait pas contresens, car le lecteur pense généralement que le nom de l'avenue honore le prince Alexandre Nevski, héros national dont il risque d'avoir entendu parler. S'il ne connaît pas le russe, il est dans l'incapacité de reconnaître qu'il s'agit tout simplement de l'avenue de la Neva, nommée d'après le fleuve auquel elle aboutit. Est-il souhaitable cependant de rectifier une traduction, ou plutôt une absence de traduction aussi discutable? J'en doute pour ma part. Tant de versions, de nombreuses et célèbres œuvres russes, ont si bien habitué le lecteur à la perspective Nevski, que s'il rencontrait soudain dans quelque nouvelle traduction l'avenue de la Neva, il imaginerait sans doute qu'il ait fait mention d'une autre avenue. En matière de traduction, même les erreurs finissent par faire loi, car tradition vaut titre. Tout, depuis le régime des vents, une symbolique souvent oubliée, mais dont les traces demeurent dans le langage, la masse des traductions antérieures, tout pèse de son poids sur les traductions à venir. La raison, je crois, en est claire. Ce ne sont jamais les mots qu'on peut au besoin remplacer, solliciter ou commenter, qui sont difficiles à traduire. Ce sont les données et les expériences qu'ils recouvrent et qui ne sont jamais tout à fait interchangeables. On entrevoit alors que le mécanisme des équivalences ne peut de loin être confondu avec une simple substitution d'étiquettes. Une civilisation entière, sans compter l'histoire d'une sensibilité particulière, celle de l'auteur, sont chaque fois en jeu. Les noms de rue montrent bien qu'il en est ainsi. Ils apportent la preuve que la traduction la plus facile n'est pas toujours désirable et qu'il est presque nécessaire de l'éviter si l'on veut être fidèle et exact. Je quitte maintenant le plan du détail remarquable pour aborder celui de la sensibilité générale d'une culture ou d'une époque. Les procédés employés, soudain, n'y ont plus la même portée, ou bien sont affectés de signes contraires. Ici, l'ellipse est appréciée, et là, c'est l'insistance. Ici, la litote, et là, l'emphase, ou bien la sobriété et l'éclat, la répétition ou l'allusion, l'hyperbole ou la prédérition. Toute figure de rhétorique possède un climat littéraire qui n'est pas transposable sans précaution. En outre, il change sans cesse, même à l'intérieur de la même langue. C'est pourquoi chaque siècle, dès qu'on se met à traduire l'Iliade, l'Énéide ou les Mille et une nuits, a connu une traduction de chacune de ses œuvres qui ressemblait moins à l'original d'Homère, de Virgile ou des conteurs arabes qu'aux œuvres contemporaines alors prisées dans la langue du traducteur. au théâtre surtout, les conventions scéniques et la nécessité de passer la rampe sont si impérieuses qu'il est souvent difficile de distinguer entre traduction ou adaptation. Au fond, l'adaptation est sentie comme une traduction. Les premières traductions françaises des drames de Shakespeare tendaient à les transformer en tragédies classiques. Elles les faisaient entrer autant que possible dans le corset des trois unités, temps, lieu et action. Inversement, quand on traduisit Racine en Angleterre, on l'approchait du style élisabéthain et l'on portait par exemple sur la scène le banquet au cours duquel Néron fait empoisonner Britannicus. Je vais à l'extrême. Les Indonésiens aimeraient volontiers représenter Hamlet ou le roi Lear dans leur théâtre d'ombre, mais comme les pièces n'y durent traditionnellement qu'un quart d'heure environ, ils doivent sans doute procéder à de nombreuses coupures et à des simplifications hardies. D'autres innovations peuvent se révéler salutaires. Un des succès de la troupe officielle de la République du Sénégal consiste dans la représentation de Macbeth, en français, dans la traduction de François Victor Hugo. Celle-ci n'a subi que le peu de modifications indispensables, notamment pour quelques noms propres secondaires, qui la transforment en un drame de la brousse africaine. Je ne parle pas des costumes et des décors, qui ne font pas partie du texte et qui, eux, sont fortement acclimatés. Pour ce prix modique, le vieux texte retrouve toute sa force barbare. Les sorcières cessent d'y paraître des allégories. La magie redevient une force efficace, redoutable, omniprésente. Les hallucinations vont de soi. Elles ne surprennent plus. Fantastiques et réels sont inextricables. Ici, l'adaptation est à la fois résurrection et bain de jouvence. Il est vrai que le drame s'y prêtait d'une façon exceptionnelle. Il ne faut pas s'y tromper. L'idée d'une traduction scrupuleuse est récente. Elle ne remonte vraisemblablement qu'à la fin du XVIIIe, peut-être même au début du XIXe, si l'on fait exception pour les textes sacrés où le respect de la parole divine entraînait plus de révérence. L'idée de la traduction littérale, qui rend exactement le texte sans addition, ni suppression, ni altération volontaire, est encore aujourd'hui limitée à quelques pays, sinon aux seuls milieux universitaires. Ceux-ci n'y sont d'ailleurs pas universellement acquis. J'en ai eu personnellement la preuve à l'occasion d'une correspondance avec un religieux libanais chrétien chargé de la traduction en arabe d'un traité d'Aristote. L'ayant fait contrôler, je fus informé que le texte en avait été souvent modifié. Je m'en étonnais auprès du traducteur. Il s'étonna de mon étonnement. Aristote, me dit-il, est un grand philosophe, mais la science et la philosophie ont accompli des progrès considérables depuis l'Antiquité, de sorte qu'aujourd'hui, Aristote aurait lui-même rectifié les erreurs qu'un écolier aurait pu relever dans son ouvrage. Il l'aurait mis à jour, accordé aux connaissances contemporaines. C'était donc lui être fidèle, ne pas manquer à ce qui était dû à sa mémoire, que procéder aux amendements nécessaires. Je me suis alors rendu compte que pareille conception pieuse de la traduction avait été sous une forme ou sous une autre pratiquement en vigueur jusqu'à ce que j'appellerais l'ère philologique. Hors de la philosophie, on ne rectifiait peut-être pas la pensée, mais on rectifiait le goût. Le triomphe de la conception philologique met aujourd'hui la fidélité au premier rang des qualités qu'on exige d'une bonne traduction. D'abord la fidélité au sens, qui est hors de discussion, au moins chaque fois qu'il s'agit d'un texte où le sens prévaut. Puis la fidélité au rythme, au style, aux images, à tout ce qui constitue la chair, la saveur propre, l'originalité d'une manière d'écrire. Il peut arriver que le sens littéral soit alors secondaire. Je ne suis pas persuadé que le parti pris qui sévit en Europe occidentale de traduire en prose des poèmes réguliers soit sans inconvénient. On traduit ainsi le sens du poème, lequel n'est pas tout son contenu, et n'est pas en tout cas un poème. D'un autre côté, les compromis auxquels le traducteur doit consentir pour obtenir dans sa langue une versification irréprochable le conduisent presque immanquablement ou bien à une composition qui n'a ni le ton ni la densité du poème original ou bien à un autre poème et qui est davantage son œuvre que celle de l'auteur traduit. On affirme alors qu'il s'agit d'une recréation du poème. Je veux bien, mais réfléchit-on alors qu'une recréation est plus difficile que la création même, l'invention au moins, ce qui, de ce point de vue, n'est nullement un avantage. En effet, le traducteur doit résoudre dans sa propre langue les différents problèmes d'adéquation de forme et de fond, de vocabulaire, de connexion sémantique, d'harmonie, de structure métrique, de rythme, de temps fort, que l'auteur avait dû résoudre dans la sienne. Il est en outre obligé d'être fidèle, c'est-à-dire qu'il lui est interdit de découvrir lui-même une solution originale, puisqu'il doit nécessairement adapter celle que l'auteur avait choisie avec liberté dans un autre système lexical, syntaxique, sonore et métrique. Je termine par ce dernier problème, un rapide et téméraire survol de quelques-uns des problèmes que posent la théorie et la pratique de la traduction, particulièrement de la traduction littéraire. J'ai souhaité en montrer la diversité, et d'abord que la difficulté fondamentale ne vient pas des mots et du langage, mais des données incompatibles et des expériences inconciliables que chaque langage recouvre. J'ai cru devoir souligner également que les buts que se sont proposés et que se proposent encore les traducteurs ne sont ni constants ni universels. Si j'ai conclu sur les apories de la traduction de la poésie, c'est qu'elles permettent peut-être de formuler, avec plus de précision, ce que doit être la traduction idéale. La vieille opposition de la traduction littérale et de la belle infidèle pose mal, ce me semble, le problème. Une traduction d'une précision philologique restitue le sens, mais ne restitue que lui. Elle risque de sacrifier les ambitions artistiques de l'auteur, et plus généralement les qualités proprement rhétoriques du texte, et qui en constituent parfois l'essentiel, comme il arrive aussi bien pour un humble proverbe que pour le vers le plus insidieusement musical. De sorte qu'une telle traduction n'est fidèle qu'à l'accessoire. À l'inverse, une traduction faite pour séduire néglige le message transmis au profit d'une beauté de façade le plus souvent passagère et tributaire de la mode. En revanche, ce qui me paraît toujours davantage constituer la fidélité vraie consiste dans la détermination de l'intention prioritaire de l'auteur traduit, ou du moins dans l'appréciation juste des effets qu'il a obtenus, tels qu'ils ressortent de la lecture attentive et sensible de son ouvrage. Le reste est tout d'exécution, qui est adresse, expérience et savoir. À ce sujet, je me contenterai de reprendre à peu près dans les mêmes termes la réponse que j'ai faite, il y a plusieurs années, à l'enquête d'une revue professionnelle de traduction, où l'on me demandait de définir quels pouvaient être les caractères de la traduction à la meilleure. J'avais répondu, bien traduire Pindare, Dante ou Pouchkine, en français par exemple, c'est écrire le texte que Pindare, Dante et Pouchkine auraient écrit s'ils avaient disposé des ressources du français au lieu de disposer de celles du grec, de l'italien ou du russe, et ainsi de suite. Bien traduire, c'est inventer le texte. Vocabulaire, syntaxe et style, c'est inventer le texte qu'aurait écrit l'auteur traduit si sa langue maternelle avait été celle du traducteur et non la sienne. Une telle transposition suppose beaucoup de connaissances, d'intelligence et d'imagination. C'est elle qui définit, à mes yeux, la traduction idéale. Je ne prétends pas qu'elle soit possible. Je dis que le bon traducteur est celui qui essaye de s'en approcher.
C'était Roger Caillois dans une conférence prononcée le 21 mai 1971 à Kaboul. Première diffusion de cette conférence quelques mois plus tard, le 30 juillet de cette même année. Vous pouvez réécouter cette archive et la podcaster sur le site de France Culture à la page des nuits et sur l'application Radio France.